3h du matin, Billund, Danemark. La lune éclaire faiblement la petite usine de meubles en bois et de jouets. Les ouvriers de Lego ont regagné leur foyer depuis longtemps. Sur le sol, au milieu des chutes de bois abandonnées, on aperçoit dans la pénombre les fils électriques qui traversent l'atelier. Nous sommes en 1942, effectivement, les mesures de sécurité ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. À côté des fils, on voit distinctement l'arrivée d'eau utilisée pour mouiller le bois avant de le couper. Et cette nuit-là, une fuite d'eau provoque un court-circuit. Le stock de bois prend feu et bientôt c'est l'usine entière qui disparaît en fumée. Ole Kirk Christiansen, le propriétaire, est dévasté. Les assurances refusent de couvrir l'intégralité du sinistre. Second incendie de l'histoire de sa fabrique. L'homme qui est parti de rien, doute maintenant, encore une fois, de tout recommencer. Je vous amène aujourd'hui pour découvrir l'histoire de Lego. Dans cet épisode, vous allez notamment découvrir comment Lego est sorti de terre malgré les feux jusqu'à la création de la brique plastique évidemment, en 1958. Bienvenue sur L'Apprenti. L'Apprenti, c'est quoi ? C'est le podcast où je vous raconte des histoires d'entrepreneurs et d'entreprises qui nous inspirent, qui vous inspirent. Ces histoires, c'est moi qui vous les raconte, simplement, sans phare, avec tous les détails. Rien ne vous échappera. Je m'appelle Laurent Brouin, je suis moi-même entrepreneur, j'ai créé et revendu ma boîte en 10 ans. Et c'est toute une histoire. Ole Kirk Christiansen naît donc au Danemark en 1891 dans une famille de paysans pauvres. Après avoir travaillé quelques années en Allemagne, Ole revient au Danemark, à Billund donc, une ville perdue au centre du Danemark. Dans une lettre du début du siècle, voilà comment est décrite d'ailleurs Billund. Un terminus ferroviaire oublié de Dieu où rien ne peut prospérer. Ole donc, dans son élément, et il y a deux choses qu'il aime passionnément. Le bois et l'adversité. Ole crée donc son atelier de menuiserie en 1916 et commence à vendre tabourets, planches à repasser et autres ustensiles de cuisine. Les années suivantes, la petite entreprise se développe, ainsi que sa famille d'ailleurs. Marié, il se retrouve père de 4 enfants. Étonnamment, il semble à cette époque qu'il fait ses preuves et prospère dans la petite cité oubliée de Dieu. Mais ça, c'est sans compter ses enfants et notamment ses 2 fils, Karl-Georges et Gottfried. En 1924, lors d'un jeu, ils mettent accidentellement le feu à l'atelier. L'incendie se propage rapidement. Lorsqu'il est enfin éteint, il ne reste plus que des cendres de sa maison et de son atelier. À l'aide des économies accumulées pendant les années de prospérité, il parvient à reconstruire usine et maison. Mais peine perdue. Très vite, le continent européen est atteint par le krach boursier américain de 1929. Durement touché par la récession, la clientèle d'Olé fond comme neige au soleil. Il ne faut pas plus de 3 ans d'ailleurs pour qu'il se retrouve ruiné. Un malheur d'ailleurs, n'arrivant jamais seul, sa femme meurt en 1932. Pour répondre à la crise, Olé décide de diversifier son activité. Il se met alors à fabriquer des jouets bon marché en complément des ustensiles et des meubles. Il utilise notamment des chutes de bois qui sont des résidus des meubles qu'il fabrique. Ole, d'ailleurs, le bon fabricant de meubles, se révèle un brillant créateur de jouets. Son inventivité, sa rigueur et sa méticulosité font merveille. Artisan dans l'âme d'ailleurs, amoureux du travail soigné, il met en place un process de fabrication minutieux. Tout d'abord, il utilise du bouleau. Alors le bouleau, c'est un arbre assez commun au Danemark et dans les régions du Nord, donc un arbre abondant. Une fois coupé, le bois reste 2 ans à l'air libre. Et lorsque le bois est à sa convenance, il le laisse sécher dans un four pendant 3 semaines. Le bois est alors prêt à être travaillé. Et les pièces sont ensuite sculptées Puis les jouets sont assemblés, scellés, poncés et apprêtés avant d'être peints avec 3 couches de vernis. Olé conçoit lui-même ses jouets et c'est naturellement d'ailleurs que son fils Godfred, donc le troisième, commence à 12 ans à les dessiner avec son père. Mais l'énergie et le travail ne paient pas. Et Olé, malheureusement, est à nouveau sur la paille, peinant à faire vivre sa famille. Ses frères et sœurs lui proposent alors un prêt de sauvetage pour sauver son entreprise de la faillite. Ils y mettent une seule condition, qu'il se concentre sur les meubles et cesse de fabriquer des jouets. Mais Olé n'est pas prêt à renoncer à la passion qu'il s'est trouvée pour les jouets. Non seulement il refuse le prêt, mais il va plus loin. Il abandonne son activité de meuble pour se consacrer uniquement aux jouets. Là, on peut le dire clairement, il est all-in. Et sa pugnacité marche. Malgré la récession, la qualité de ses jouets trouve son public. Et bientôt, le voilà en train de réembaucher du personnel. Très vite, se pose alors la question du nom de marque, puisqu'il a mis tout all-in sur les jouets, il va peut-être devoir changer son nom. Et donc, Olé organise alors un concours en interne, pendant lequel il va faire gagner d'ailleurs une bouteille de son vin personnel. Quel nouveau nom donner à l'entreprise? Après réflexion, c'est Lego qui l'emporte.
Lego veut bien dire « joue bien ». Plus précisément, les mots danois « leg got » signifient « joue bien ».
Leg got. C'est bizarre le danois.
Le hasard, et d'ailleurs un hasard incroyable quand on y pense, faisant bien les choses, Lego en latin veut dire « je mets ensemble » ou « j'assemble ». Pour moi, c'est un truc extraordinaire. C'est un mélange entre la chance et le rencontre. Mais bon, bref, la réputation d'ailleurs de Lego est grandissante. Et bientôt, ses jouets sont appréciés à travers tout le Danemark. Notamment d'ailleurs, ses ingénieux modèles de voitures et d'animaux ou ses adorables jouets à tirer. Son best-seller, vous verrez sur internet, c'est magnifique, c'est un canard en bois dont le bec s'ouvre et se ferme lorsqu'il est tiré par un enfant. Fin des années 30, il construit une petite usine adjacente à la maison de famille. L'atelier s'agrandit bien avec environ 40 salariés. La marque Lego, elle, est même reconnue dans tout le pays. Mais une nouvelle fois, le feu va bouleverser les plans de Lego. Le 23 mars 1942, l'usine Lego brûle. Olé est atterré. Il a bien souscrit une assurance, mais les remboursements ne sont pas suffisants pour couvrir les frais de reconstruction. Il obtient alors un prêt et il va même jusqu'à hypothéquer sa maison. Les restrictions financières le condamne à vivre, lui et sa famille, assises dans une seule pièce. Alors, petite info, effectivement, Olé s'est remarié, et en plus, il a eu un nouvel enfant, donc 4 et 2, 6. Encore une fois, pour Olé, c'est un nouveau départ. Il décide donc de reconstruire son usine avec l'argent de l'hypothèque. Mais au lieu de la refaire à l'identique, il reprend le concept de production à la chaîne importé des États-Unis 10 ans auparavant. Comme d'habitude, l'adversité s'avère un puissant moteur pour Olé. Au lieu de l'abattre, elle lui donne l'occasion d'expérimenter de nouvelles idées. Un trait de caractère qu'il partage d'ailleurs avec son troisième fils, Godfred, qui travaille aux côtés de son père depuis quelques années déjà. Souvenez-vous, c'est lui qui va jusqu'à dessiner des jouets. L'après-guerre, d'ailleurs, signe la pénurie, donc en 1945-1946, signe la pénurie des produits de base, dont le bois. De plus en plus d'industriels se tournent alors vers cette nouvelle matière synthétique, le plastique. Moins cher que le bois, il est plus facile à produire. Dès 1946, Olé investit dans une machine de moulage par injection, première de son genre au Danemark. Malheureusement, lorsque les premiers jouets en plastique sortent de l'usine, ils trouvent face à eux des clients peu réceptifs. Alors, rappelez-vous, 46, Danemark, le plastique a mauvaise presse. Il souffre de son côté chimique et potentiellement dangereux. Le côté anxiogène de la matière n'est pas là non plus pour rassurer les parents. Quant aux salariés de Lego, ils sont plutôt hanchés et militent même activement pour ne faire que des jouets en bois. Ils craignent notamment pour leur santé et, à l'instar de la population danoise, sont sensibles à la mauvaise réputation de cette nouvelle matière industrielle. Au final, les ventes s'avèrent médiocres. Et contre l'avis de tous, Olé s'accroche à son idée. Il comprend le potentiel de cette matière. Reste à voir maintenant comment l'exploiter au mieux. En 1949, sur l'invitation du vendeur de la machine de moulage de son usine, Olé part à Londres pour une foire sur les jouets. En faisant le tour de l'exposition, il tombe sur un stand qui présente une machine à moulage, à peu près la même que celle qu'il a achetée. Ce n'est pas la machine qui retient son attention, mais des petites briques posées sur le stand qui ont été fabriquées à partir de cette machine à moulage. Des briques en plastique emboîtables les unes avec les autres. Discrètement, il prend une des petites briques et la glisse au fond de sa poche. Il se renseigne et apprend vite qu'il s'agit des briques de la société britannique Kiddycraft. Créée par Hilary Page, Kiddycraft est le véritable ancêtre des Lego tels qu'on les connaît. Hilary crée notamment en 1947 un ensemble de briques en plastique autobloquantes. Attention, quand il dit autobloquantes, c'est autrement dit qu'ils peuvent s'emboîter. À son retour donc à Billund, courant 1949, Olé modifie alors le dessin de la brique, persuadé qu'elle a un avenir. Mais personne n'y croit dans son usine. À partir des dessins de Kiddycraft, il crée notamment une nouvelle brique, la Automatic Binding Brick. Binding qui veut dire relier évidemment, hein, brick. C'est à peu près la même chose qu'en français. Les débuts se révèlent laborieux pour la brique. Les Lego entre eux n'accrochent pas très bien et se détachent notamment dès qu'on les touche. Ce qui rend d'ailleurs les constructions particulièrement fragiles.
On nomme Lego Bricks. Malheureusement, les spécialistes des jouets très méfiants avaient raison. Les enfants ne sont pas immédiatement enthousiastes, ils trouvent les briques difficiles à manipuler et à utiliser. Elles ne s'adaptaient pas bien les unes des autres et se détachaient trop facilement. Mais Olé a entièrement confiance en son produit et décide de ne rien lâcher.
La part des ventes de ce nouveau jouet reste faible. Il faut bien l'avouer, encore une fois, l'essentiel des revenus continue de venir du marché des jouets en bois. Les salariés semblent donc avoir raison. Enfin, ils ont raison jusqu'en 1958. Mais nous n'en sommes pas là. Une question se pose et qui reviendra souvent dans l'histoire de l'entreprise. Est-ce que Lego a vraiment volé un brevet ? Kiddycraft a bien breveté son invention dans plusieurs pays, dont la France, l'Angleterre, l'Allemagne, mais pas dans les pays scandinaves, malheureusement pour eux. Du coup, Lego a parfaitement le droit de les copier sans risque. Pourtant, en 1981, il rachète les derniers droits à Kiddycraft pour 45 000 livres. Et en vrai, c'est surtout pour éviter tout scandale, et ce, avant certains procès qu'ils vont faire à des gens qui copient leur modèle. En attendant, avant d'éluder cette question, l'usinel continue de prospérer. En 1953, le nom peu sexy de Automatic, donc rappelez-vous, un Binding Bricks, est remplacé par celui de Lego Merston. Le nom Lego est désormais imprimé sur chaque brique qui sort de l'usine. Une usine d'ailleurs qui emploie désormais plus de 140 salariés. Malgré tout, les jouets en bois représentent encore une grande partie des assortiments dans l'usine. Mais Olé, comme son fils Gottfried, sont persuadés de l'avenir de la brique. 1956, Lego se lance pour la première fois hors du Danemark et ouvre un bureau en Allemagne. L'année suivante, Gottfried, le fils d'Olé donc, prend la direction de Lego. Gottfried d'ailleurs, si on parle un peu de lui, occupe déjà depuis plusieurs années des fonctions de direction et travaille notamment avec acharnement sur le système d'accouplement entre les briques. C'est même, on peut le dire, devenu une obsession chez le jeune homme de 35 ans. Il finit par trouver une solution pour relier les briques grâce à un système de tubes sous la brique du Lego. Le système est breveté à Copenhague le 28 janvier 1958. Alors, arrêtons-nous deux minutes sur ce concept qui donne ce que Lego continue d'appeler la puissance d'embrayage. Donc, d'accord ? Pour tous ceux qui ont déjà joué au Lego, lorsqu'un enfant enclenche deux briques ensemble, elles s'emboîtent solidement avec un clic. Vous savez, le clic, c'est plutôt un clic satisfaisant. Et ce concept-là, il n'a pas bougé depuis 1958. Donc ça veut dire que les briques que vous avez dans la main, ce sont toujours les mêmes et n'ont pas changé depuis 1958. Mais le coup de génie a vraiment lieu le 26 février 1954, donc quelques années avant. Gottfried revient d'une foire aux jouets de Londres, il y a toujours une foire aux jouets de Londres qui est dans l'histoire, en compagnie d'un acheteur de magasins du Nord, un des plus grands magasins du Danemark. Ils sont donc assis à l'arrière d'un bateau et les deux hommes discutent sur leur vision des jouets du marché. Et l'acheteur, à ce moment-là, livre sa vision du marché à Gottfried. Le problème avec le marché actuel, dit-il, donc le marchand de jouets, c'est que chaque année, constructeurs et diffuseurs doivent réinventer le jouet qui dominera le marché. Autrement dit, ils doivent réinventer la roue chaque année. Ça serait tellement plus simple, dit-il, s'il existait une gamme ou une série, enfin quelque chose de cohérent, qui permette un suivi des jouets année après année. Gottfried, à ce moment-là, a une vision extraordinaire. Lego, pour lui, doit passer de la production de jouets autonomes à la création d'un système de jeu complet, avec la brique comme élément unificateur. Il s'attelle à cette mission et crée un système de jeu autour de la ville, Lego City. Et malgré les ambitions de Gottfried pour le jeu, le Lego donc système iLeg, ça s'appelle comme ça, hein, lancé au Salon du Jouet de Nuremberg en février 1955, Nuremberg, Allemagne, reçoit un accueil plus que mitigé. Pourtant, le système fait ses preuves. Et le succès s'annonce en rendez-vous d'abord au Danemark, puis en Allemagne, où les ventes doublent en 1957 et puis en 1958. La promesse de la brique Lego est à la fois infinie et irrésistible. Plus on en achète, plus on peut en construire. Gottfried parie alors sur le tout brique et renonce aux jouets en bois, malgré les ventes qu'il continue de faire. Et c'est finalement un incendie, le troisième pour Lego, qui l'aide à mettre cette décision en œuvre. On va croire que finalement c'est eux qui mettent le feu à leur propre entrepôt. En 1960, l'entrepôt de jouets en bois prend feu. Tous les jouets sont décimés. Lego en profite alors pour arrêter définitivement toute production de jouets en bois. Après s'être diffusé dans plusieurs pays européens à la fin des années 50, donc en ayant commencé avec l'Allemagne, Lego, grâce à un accord de licence avec Samsonite, fait ses débuts en Amérique du Nord en 1961. Les premières publicités pour les enfants américains apparaissent alors.
Lego is here. Hey, kids, look. A whole new world to build. Cause Lego is here.
Ce succès, qu'il soit au Danemark, en Allemagne, dans tous les pays européens ou même aux États-Unis, c'est un succès que malheureusement, le fondateur de Lego, Ole Kirk Christiansen, ne verra jamais puisqu'il meurt le 11 mars, brutalement, 11 mars 1958, d'une crise cardiaque. Lego est désormais une marque mondiale qui pourtant, dans les années 2000, va atteindre les portes de la faillite, mais ça, c'est une autre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté L'Apprenti, et je vous le redis, car ce podcast, ce sont des heures de travail, et votre écoute est très précieuse pour moi. Je ne pourrais continuer ce travail de fond sans votre aide. Si vous pouvez laisser un commentaire ou même 5 étoiles, je vous en serais très reconnaissant. Pour connaître les coulisses et notamment les infos que je ne peux pas toujours vous donner, abonnez-vous à ma lettre sur l'apprenti.fr. Vous retrouverez toutes les nombreuses sources qui ont permis de construire cette histoire. Merci enfin à Thibaut et Alexandre pour leur travail formidable, leur travail de fond. Et je vous dis rendez-vous pour un prochain épisode.